BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Le grand journal qui accueille ce soir sur son plateau Chantal Jouanneau. Chantal Jouanneau, on entend beaucoup parler de vous depuis deux jours. Information du Figaro, bien avant, hein, mais principalement depuis deux jours avec cette information du Figaro, selon laquelle, en cas de victoire au régional en Ile-de-France en décembre prochain, eh bien Valérie Pécresse vous aurait promis une sorte de vice-présidence. C'est une réalité, cet accord entre vous?
Alors l'accord, on n'est pas complètement conclu, hein. On est encore en discussion parce qu'on a quand même différents points de fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait plusieurs propositions sur un plan d'urgence pour l'Île-de-France, qui reprend en fait la philosophie du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo en y intégrant des dimensions écologiques. Dans ce plan, il y a différents éléments. Il y a un contrat d'apprentissage pour les chômeurs de longue durée. Il y a un plan d'urgence pour la rénovation des logements, qui est la priorité absolue. Et il y a cette idée fondamentale que l'urgence en Île-de-France, c'est effectivement le développement économique et le développement écologique, parce qu'on est très en retard par rapport aux autres grandes métropoles européennes, et on est un mauvais élève sur la santé environnementale. Et donc, la nécessité d'avoir dans l'ensemble de nos politiques, que ce soit les politiques d'urbanisme, de logement, de transport, qui est la compétence première de la région, un regard, une approche écologique. Donc oui,
c'est ça que vous attendez, en fait, cette approche écologique. Si elle y est, vous irez?
Oui, c'est absolument indispensable. Moi, mon engagement en politique, il est fondé sur l'écologie. C'est ma raison d'exister, entre guillemets, en politique. J'étais présidente de l'ADEME et c'est Jean-Louis Borloo, effectivement, qui a souhaité que je le rejoigne pour porter ces sujets-là. Donc, c'est cette idée. Ça reprend un peu une idée qui avait été celle de Nicolas Hulot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la campagne de 2007. Ça date un peu, pardon. Cette idée de vice-premier ministre qui aurait un regard transversal, effectivement, sur les différents sujets et une compétence spécifique dans les domaines effectivement de l'urbanisme et du logement.
Qu'est-ce qui bloque pour le moment ?
Rien, on avance sur... Rien, sur le fond, rien.
De toute façon,
le projet de Valérie Pécresse, il est en cours d'écriture. Donc, rien, simplement, les accords, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, quoi. Donc, nous, on a une relation personnelle, comme vous le savez, qui est une très bonne relation. Moi, j'ai toujours apprécié Valérie parce que c'est une bosseuse. Et maintenant, on a les appareils, donc il y a des accords entre les parties.
Vous vous êtes senti un peu délaissé tout de même par l'UDI dans cette campagne pour les régionales?
Non, pas par l'UDI. On a fait une super campagne. On a fait quand même 17 meetings pour justement essayer d'élaborer le projet sur le fond. 17 meetings dans l'ensemble des départements. Pas du tout par l'UDI. Les quelques éléments perturbateurs ont fait un jeu individuel. Mais ça, c'est tellement classique en politique. S'intéresser à soi plutôt qu'aux autres, c'est assez classique. Ouais.
Que manque-t-il en Ile-de-France, hormis cette vision écologique, vous nous l'avez dit, hein, mais concrètement dans les transports, par exemple, ou dans ce genre de choses, quels seraient les projets que vous aimeriez vous voir mis sur la table?
Il y a deux éléments en Ile-de-France. Il y a ce que je vous disais sur la partie écologique. C'est-à-dire qu'on a un discours, on en parle, on met le mot écologie à peu près dans tous les discours, mais le budget environnement de la région Ile-de-France, c'est 2,5% de son budget. Alors, comme priorité, on fait mieux. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que finalement, on s'est rarement orienté vers vraiment la création d'entreprises et le développement des entreprises. Au contraire, ça a toujours été un discours très réticent. On le voit dans le débat d'ailleurs sur l'ouverture des commerces le dimanche. C'est toujours cette vision de l'entreprise qui aurait nécessairement des objectifs très néfastes pour l'ensemble de la population. On le voit bien aujourd'hui, s'il y a tellement de chômage, c'est parce que justement, on ne développe pas suffisamment les entreprises, pas simplement la création d'entreprises, d'ailleurs leur développement et notamment le développement des PME. Donc il y a ces deux éléments qui doivent être corrélés. La question des transports avec le Grand Paris, d'ailleurs c'est pas la région Île-de-France, c'est pas Jean-Paul Huchon qui est au pouvoir depuis quasiment 18 ans qui a développé le Grand Paris. Ça a été une initiative de l'État, d'abord de Nicolas Sarkozy, repris par l'actuel gouvernement, mais c'est une très bonne chose qu'il y ait de la continuité en politique pour une fois. Mais c'était pas la région malheureusement qui a porté cette dimension. Donc ça va se faire et ça doit se faire. Simplement dans les transports, on pense très peu aujourd'hui, si on reprend l'approche écologique, à comment est-ce qu'on combine les différents modes de transport, le particulier avec le transport public, comment on combine par exemple du covoiturage avec du transport public, et on met de l'écologie dans toute la dimension transport.
Et le fameux dernier kilomètre également?
Et le fameux dernier kilomètre pour le transport, tout particulièrement de marchandises, enfin on appelle ça le dernier kilomètre, en réalité quand, à l'échelle de la France, c'est les 100 derniers kilomètres, mais bon, le dernier kilomètre pour les transports de marchandises, nous on avait fait des propositions avec des plateformes logistique, effectivement, à l'approche des grandes villes pour ensuite pouvoir approvisionner les villes avec des véhicules, par exemple des véhicules électriques. On a des initiatives intéressantes. Vous l'avez, par exemple, Franprix à Paris qui a développé ça avec avec le transport pour le transport fluvial. Donc il y a des possibilités de faire. Maintenant, il faut que la région soit pas toujours dans cette démarche hyper politique qu'elle a aujourd'hui, mais plus dans une démarche de bâtisseur.
Vous évoquez le travail du dimanche, l'ouverture de magasins dans certaines zones. On a reçu même ici même le principal syndicat, l'intersyndicale, Clip en l'occurrence, qui nous dit oui, c'est un scandale, pour résumer, parce que si on ouvre certains magasins, il faudra ouvrir les autres, et puis si on ouvre les magasins, il va falloir au final faire travailler bien plus de monde, les crèches, le service de nettoyage, les services de transport également. Quelle est votre position par rapport à cette ouverture de certains magasins le dimanche?
Ah oui, mais j'ai toujours été favorable, pas partout, évidemment, pas partout.
L'argument avancé par Clip.
Le principe d'un repos dominical qui soit commun à une majorité de population, c'est un principe fondamental. Sinon, comment est-ce qu'on vit ensemble si on n'a pas des espaces de respiration communs? Mais ce qui est un scandale aujourd'hui, c'est que dans notre grande capitale, on se glorifie, ou dans notre métropole, on se glorifie de dire on a des chiffres du tourisme extraordinaire. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en dépenses par touriste, on est très en retard par rapport aux autres capitales européennes. Parce que certes, ils viennent chez nous, mais ils dépensent moins qu'ailleurs. Or, l'intérêt quand même d'avoir des touristes en France, c'est qu'ils dépensent et qu'ils fassent justement vivre nos commerces et nos entreprises. C'est quand même ça l'intérêt. Donc l'ouverture du commerce le dimanche, ça y participe. Et on a une situation extrêmement paradoxale à Paris où vous avez fait des grands magasins, les Galeries Lafayette et le Printemps, qui ne peuvent pas ouvrir le dimanche. Honnêtement, c'est une aberration. Et le deuxième scandale, c'est le niveau du chômage. Enfin, refuser à des gens la possibilité de travailler, ça c'est un scandale.
Alors, on va revenir sur les annonces également du jour, notamment celle de François Hollande, bien évidemment, avec cette nouvelle promesse, enfin nouvelle non, avec cette promesse d'ailleurs de baisse d'impôts. Au début, il disait voilà, si la croissance repart, et puis finalement non, c'est une promesse. Par contre, on verra le niveau des baisses d'impôts. Les réactions sont violentes, notamment dans l'opposition. Certains comme Éric Ciotti estiment que c'est une grosse blague. Est-ce que c'est une grosse blague selon vous?
Ce qui est ennuyeux avec François Hollande, c'est que sa seule obsession maintenant, c'est sa réélection.
Alors, il n'est pas le seul.
Oui, mais enfin, il est en responsabilité. Il est aux responsabilités. La question des impôts, il a dit tout et son contraire. Il fait tout et l'inverse, puisqu'il a commencé par prélever au global 100 milliards d'euros pour ensuite dire, bah, finalement, on va le restituer une partie aux entreprises et maintenant aux particuliers. Vous vous souvenez de la campagne de 2012, où on nous expliquait quand même que les impôts, c'était formidable et que c'était incompréhensible qu'on souhaite baisser les impôts. Enfin, je me souviens très précisément de cette campagne de 2012, où l'ensemble de la gauche expliquait que les impôts, c'était la participation à la vie
commune. Mais rendre l'effort aux Français.
Mais aujourd'hui, elle est où la croissance?
On nous parle
elle est où, la croissance
d'un 1,5-1,2%.
Combien il faut de croissance pour créer de l'emploi? Il faut plus de, mais il faut 1,5-2%. Elle n'est pas là, la croissance. Et le problème central, il est là. On va baisser les impôts, très bien.
Sur 2016, la croissance pour le moment,
c'est la politique centrale de l'Europe de baisser les impôts. On ne va pas dire que c'est malheureux. Mais quand même, le problème, c'est que d'abord, il faut baisser les dépenses. Il faut baisser les dépenses publiques. Parce que si vous ne baissez pas les dépenses publiques, vous continuez à faire toujours plus d'engagements. Ce qu'a fait le gouvernement en les transférant sur les collectivités, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse des impôts, effectivement, de l'État. Mais par contre, il y a une augmentation des impôts locaux. Parce que les collectivités ont toujours autant d'obligations. Par exemple, payer les différents revenus. Et de l'autre côté, il y a une augmentation de la TVA. Le résultat, en 2014, on dit c'est formidable, il avait baissé les impôts, c'est qu'il y a eu une augmentation des impôts locaux et de la TVA. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur la fiscalité, on a baissé l'impôt sur le revenu. C'est le seul impôt progressif.
Alors,
c'est le seul impôt républicain.
Je vais vous demander, c'est CSG ou impôt sur le revenu pour baisser?
Non, mais c'est le seul impôt républicain, l'impôt sur le revenu. Voilà un impôt qui, à l'inverse, dans une logique républicaine, devrait être payé par tout le monde. La seule proposition intelligente qu'il avait fait pendant sa campagne, c'était de réfléchir à une fusion entre la CSG, et l'impôt sur le revenu. Ça, c'est le premier point. Donc, d'ailleurs, Maï a dit que ce serait intéressant qu'il y ait quand même un impôt payé par tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, dans une logique républicaine, il a raison sur ce point. Je ne partage pas tout ce qu'il dit, mais sur ce point, il a raison. Deuxième élément, pour une fiscalité plus juste, il faut réfléchir à une fiscalité écologique. Il l'a promis, il ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, il dit non, mais la fiscalité écologique, c'est terminé, c'est enterré. Si on veut réellement avoir une transition énergétique, et on vient de voter la loi, et c'est dans tous ses discours, et s'engager sur le climat, il faut qu'aujourd'hui, la pollution coûte plus cher que l'absence de pollution.
La loi qui a été promulguée au journal.
La loi a été promulguée, mais la fiscalité écologique, elle n'existe toujours pas.
Je vous repose quand même ma question, baisser les impôts par la CSG ou par l'impôt sur le revenu?
ni l'un ni l'autre pour moi. Je vous dis que la réalité aujourd'hui, c'est de baisser les impôts aujourd'hui sur la production, parce que le problème central, c'est le chômage. Et le problème de la France centrale, c'est ni la CSG, ni l'impôt sur le revenu, ce sont les charges sociales. Ce qui différencie la France par rapport aux autres pays européens, c'est le niveau et le poids des charges sociales. Donc si on doit baisser quelque chose, c'est ça.
François Hollande qui a également hier annoncé ses quatre priorités pour la rentrée, parmi elles l'immigration. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on a vu que Bernard Cazeneuve s'était rendu à Calais avec son homologue britannique. 10 millions d'euros vont être mis sur la table par les autorités britanniques notamment. Comment résoudre aujourd'hui ce problème qui est un double problème politique et financier ?
Ça fait des années qu'on se casse le nez sur la question de l'immigration, parce qu'en réalité, tous les discours... au-delà des discours, en réalité, les politiques convergent. Il faut distinguer la question, et ça, c'est fondamental, parce que dans les discours politiques, il y a toujours un peu de populisme et de démagogie, donc on mélange les deux. Donc il faut distinguer la question des réfugiés, des demandeurs d'asile, de la question de l'immigration.
Aujourd'hui, il y a un amalgame entre les deux.
Il y a un amalgame complet entre les deux. Les réfugiés, les demandeurs d'asile doivent être mieux traités. Les délais de traitement des dossiers sont trop longs. Je vous renvoie un rapport extrêmement intéressant de Valérie Létard, notre collègue UDI, qui est sénatrice sur la question de l'asile, pour apporter des solutions extrêmement concrètes. Ça, c'est un point. Donc, être plus généreux et plus rapide sur ce point, ça oui. Par contre, la question de l'immigration, il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'augmenter l'immigration, et notamment l'immigration économique. Donc quand Jean-Christophe Lagarde dit aujourd'hui politique des quotas sur l'immigration parce qu'on n'a pas besoin d'immigration économique dans tous les domaines, il a raison. L'Allemagne en a besoin et va en avoir besoin. La France...
800 000...
L'Allemagne, oui. Mais la France, aujourd'hui, effectivement, sur le plan économique, ne peut pas se permettre.
On fait quoi
Le sujet de l'immigration, bon, on a vu l'accord, c'est 10 millions d'euros, effectivement, sur deux ans. Le sujet central, c'est est-ce qu'ils sont là en situation régulière ou non? Non, ils ne le sont pas dans la plupart des cas.
Justement, on en fait quoi aujourd'hui de toutes ces personnes qui sont
et le deuxième, attendez, que le deuxième point, c'est que ça doit être une politique européenne. Ça doit être une politique européenne. Nous, on a toujours plaidé pour une politique européenne de l'immigration, avec des centres de traitement des demandes d'asile qui soient dans les pays où sont justement les demandeurs d'asile, parce qu'une fois qu'ils sont en Europe, on ne sait plus faire face. Donc ça, on le sait effectivement. Et deuxièmement, ces personnes, ceux qui sont en situation irrégulière, et qui ne sont pas des demandeurs d'asile, j'insiste sur ce point, ont vocation à être conduits chez eux.
Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes qui sont à Calais? On
les renvoie chez elles? Très clairement, le sujet central aujourd'hui, les personnes en situation irrégulière ont vocation à être conduites chez eux.
Tout autre sujet, comment est-ce que vous expliquez qu'il faille autant de temps pour trouver un ministre du Travail alors que l'on sait depuis 10 jours que François Rebsamen est démissionnaire?
Parce que ce qui préoccupe le plus le gouvernement, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le travail, mais ça a l'air d'être leurs accords politiques internes. Donc, ce qui préoccupe le plus le gouvernement, c'est de savoir comment ils vont faire alliance avec les Verts ou pas alliance avec les Verts, et à quelle composante interne du PS, qui est quand même une galaxie assez complexe, on va essayer de faire plaisir. Non, mais enfin, c'est quand même incroyable de se dire qu'on est en train de faire une rentrée avec un taux de chômage qui ne cesse de battre des records sans avoir de ministre du Travail. Pardon, je ne suis pas très sympathique, mais là, je trouve ça caricatural.
Et donc, c'est quoi? On est encore en train de discuter ou il y a un réel problème au niveau justement d'alliance probable? C'est-à-dire, profond remaniement ou remaniement à la marge?
Il y a deux problèmes. C'est que d'une part, pour faire face à la question du chômage, il faut admettre, un, que ça prend du temps et que, deux, la question du chômage va se résoudre à la relance des entreprises, fondamentalement par les entreprises. Et donc, toute la politique de traitement social n'a pas fonctionné. Ça, c'est le premier point. Et ça, pour le gouvernement, c'est un constat d'échec. C'est pas le premier, mais c'est quand même un constat d'échec. Et deuxièmement, il y a sa question des alliances avec les Verts. Parce que quand je dis ça, il faut qu'ils renoncent justement à l'ensemble du discours qui est celui de ses alliés qui sont très à gauche, dont font partie les Verts, qui, je vous le rappelle, sur les départementales, étaient dans des alliances avec le Front de gauche.
Mmh. On va parler de la COP21. François Hollande en a parlé également aujourd'hui en disant qu'il fallait un accord, il y aura un accord probable. Est-ce que ce sera un accord à minima, selon vous? Est-ce que réellement, de ce genre de grand raout, on peut espérer un véritable accord concret, sérieux, et qui fasse surtout avancer les choses?
Alors, de ce genre de grand raout, comme vous dites, on peut espérer des accords concrets et sérieux. Il y en a eu par le passé, il y en a eu il n'y a pas très longtemps. Je vous renvoie à un sujet qui vous intéresse peut-être moins, mais la biodiversité 2010, Nagoya. Il y a eu un accord fondamental sur la biodiversité. Donc oui, on peut trouver des accords. Deuxièmement, oui, il faut absolument un accord, et pas un accord à minima, parce qu'il est déjà trop tard. Malheureusement, on est sur les scénarios tendanciels les pires, avec des réchauffements réchauffement à 5,8 degrés d'ici la fin du siècle.
Là, l'idée, c'est un accord à 2 degrés.
Dramatique. C'est vraiment dramatique. 2 degrés, aujourd'hui, on est à la limite de l'impossible, tel que compte tenu des différents scénarios de demande énergétique. On n'est malheureusement pas dans une bonne situation. Si je compare, parce que j'ai malheureusement suivi Copenhague, avec tous les espoirs que j'avais dans Copenhague, on est à peu près avec un texte aujourd'hui qui fait encore 90 pages, mm-hmm. avec énormément de points à négocier. Et le clivage se fait sur quoi ? Sur ce que Jean-Louis Borloo avait déjà vu avant Copenhague, en 2009, et ce qu'on revoit aujourd'hui. Il y a un besoin de financement pour les pays en développement. C'est 100 milliards d'euros. On les a promis à Copenhague. Ils ne sont pas sur la table.
Justement, accompagner les pays les plus vulnérables, on fait ça comment ?
D'abord, accompagner, pas seulement les pays les plus vulnérables, mais il faut par exemple l'Afrique, qui est notre grand voisin, qui va connaître la plus grande progression démographique d'ici 2050. C'est un pays qu'il faut électrifier. Il a absolument raison. Tant qu'on n'a pas résolu cette question, on sera confronté et à cette question climatique et à cette question de l'immigration qu'on évoquait auparavant. Donc c'est 100 milliards d'euros par an. C'est rien. C'est même pas 0,01% des transactions financières, sujet que vous connaissez bien. C'est rien. Donc aujourd'hui, c'est un problème d'avoir un peu le courage de dire les choses.
Et qui va mettre la main à la poche ?
Ah bah aujourd'hui, il y avait différentes sources de financement qui avaient été évoquées. La fameuse taxe sur les transactions financières. Mm-hmm. Par exemple.
C'est
une vieille idée qui a progressé, mais qui progresse très, très lentement. Mais des pays aujourd'hui, comme la Chine, vous évoquiez tout à l'heure les catastrophes environnementales en Chine, deviennent des pays moteurs. C'est une de mes sources d'espoir, c'est que ces pays-là, eux, ont compris leur intérêt.
Vous pensez qu'ils ont compris ? Vous pensez qu'ils ont changé ?
Ils y sont confrontés. J'ai eu la chance de faire partie d'un groupe d'échange qu'on appelle les Young Leaders. C'est un truc très... j'en ai profité. Et il y avait des dirigeants, de jeunes dirigeants chinois. Et ils ont tous parlé d'écologie, mais plus que les jeunes français qui étaient avec nous. Donc oui, je pense qu'il y aura une évolution.
Bon, on va terminer avec de la politique purement politicienne et très interne en plus pour le coup. Le Front National avec ce bureau exécutif du parti aujourd'hui qui devrait aboutir, ou pas d'ailleurs, on le verra, à l'exclusion purement et simplement de Jean-Marie Le Pen. Elle est souhaitable, cette exclusion ?
En termes politique nationale et républicaine, oui. Mais malheureusement, c'est pas la première fois que Jean-Marie Le Pen a tenu ses propos. Et celui qui est son principal pourfendeur, M. Valéry de Saint-Just, qui d'ailleurs est leur candidat investi pour les régionales en Ile-de-France, a été l'avocat de M. Le Pen dans toutes ses frasques précédentes. Enfin, c'est pas la première fois qu'il dit ça. Donc je sais que le Front National essaye aujourd'hui de donner des gages de normalité, le fond de leur discours et le fond de leurs idées restent les mêmes.
Chantal Joanneau était avec nous, merci beaucoup d'avoir participé à ce grand journal ce soir, donc sénatrice de Paris, ancienne ministre des Sports notamment. Merci encore. Pour rester avec nous sur BFM Business, on marque une courte pause et puis dans un instant on reparlera encore d'immigration avec l'un des principaux intéressés, en l'occurrence Jacques Gounon, le PDG d'Eurotunnel. C'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Dobat.
Bernard Cazeneuve et son homologue britannique étaient ce matin à Calais pour parler d'immigration et surtout pour tenter de résoudre ce problème. Manuel Valls se rendra sur place le 31 août prochain, autrement dit dans quelques jours. Bonsoir Jacques Gounon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, PDG d'Eurotunnel. Vous étiez ici même, à cette même place, au moment de l'annonce de vos résultats trimestriels, autrement dit il y a quelques semaines, et vous déploriez le manque de moyens mis sur la table par les pouvoirs publics. Est-ce que ce soir, vous êtes satisfait ?
Oui, très satisfait. Je crois qu'on a même une situation tout à fait historique. La présence des deux ministres de l'Intérieur français et britannique, ensemble, sur nos installations, voyant le chargement de nos navettes, et visitant l'ensemble des forces de l'ordre et des moyens de sécurité mis en œuvre, c'était un grand moment et c'était des messages très très forts de la part des ministres qui ont réaffirmé leur soutien à notre entreprise et à notre trafic. Nous sommes, je le rappelle, le premier opérateur transmanche, un lien vital sur le plan économique entre la France et la Grande-Bretagne, et donc une très grande satisfaction pour les messages et la présence des deux ministres.
Concrètement, qu'allez-vous faire, enfin vous, en tout cas les personnes en charge de ce problème, avec ces 10 millions d'euros ? À quoi vont servir les 10 millions d'euros mis sur la table par les Britanniques ?
Alors, dans le contexte du site Eurotunnel, qui est extrêmement vaste, qui est une installation ferroviaire complexe, qui voit passer des trains de différentes natures, des Eurostars, des navettes chargées de camions, la protection du site nécessite, sur les 23 kilomètres de périphérie, que l'on mette en œuvre des moyens de protection physique. Je rappelle que ce sont des installations dangereuses pour celui qui s'y promènerait, et nous avons connu malheureusement des drames humains par des migrants percutés par les rames. Donc protection physique. Mais une fois qu'on a fait ces protections physiques...
Pardon, protection physique, ça veut dire des policiers
clôtures. Des clôtures, tout simple. Mais il y en a des kilomètres et des kilomètres, et ce sont maintenant des clôtures de haute sécurité, de 4 mètres de haut, parce que les clôtures que nous avions précédemment ne faisaient que 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, et les migrants arrivent à les franchir. À partir de là, c'est tout un système de vigile, bien sûr de caméras, pour identifier les groupes de migrants qui se hasarderaient sur les voies, leur dire à quel point c'est dangereux, et les remettre à la police de l'air et des frontières. Et le deuxième point extrêmement fort des décisions de Bernard Cazeneuve, c'est cette très forte coordination entre les équipes de police, CRS et gendarmes, et les équipes d'exploitation d'Eurotunnel, puisque en fait tout tourne autour du succès de l'exploitation, qui voit transiter un nombre absolument considérable, surtout en cette période d'été, de passagers, de voitures, de camions.
C'est ça ce centre de commandement et de contrôle dont on entend parler ?
Oui, c'est l'idée d'avoir un travail tout à fait coordonné, ce qui est assez peu habituel. Mais comme Eurotunnel exerce une forme de mission de service public, je pense que Bernard Cazeneuve a pris, avec son homologue britannique, de fortes décisions, mais de très bonnes décisions.
Comment expliquer cette pression sans précédent, hein, plus d'un millier de migrants, certains soirs, certaines nuits, tentaient de franchir le tunnel, même si la pression est un peu retombée? Aujourd'hui, il y en a 300-400 par nuit qui tentent de le franchir.
Moins que ça. On a divisé par 10 le nombre d'invasions. Et on est maintenant dans des situations qui sont presque routinières. Non, très simplement, la technique de passage des migrants, compte tenu des passeurs qui les organisent, était de monter dans les camions. Nous avons doublé, triplé, renforcé les systèmes de contrôle des cargaisons de camions, et nous le faisons conjointement avec également les forces de l'ordre britanniques. Et donc aujourd'hui, 99,9% des migrants qui seraient dans des camions sont identifiés et ne peuvent pas passer. Les passeurs ayant constaté qu'il n'était plus possible chez Eurotunnel de se cacher dans un camion, ils ont pris l'alternative un peu désespérée qui consiste à rentrer sur le site et, comme on l'a vu par le passé, à essayer de monter dans les trains en marche avec les drames que ça peut représenter.
Sur un plan humain, justement, aujourd'hui, est-ce qu'autour du site, vous voyez la situation se détériorer ?
Non, je crois qu'elle est tout à fait identique à ce que l'on observe depuis plusieurs mois. Les associations humanitaires font un excellent travail. Chacun, si j'ose dire, dans le cadre de ses responsabilités, s'efforce de faire en sorte que cette situation dramatique ait le moins d'impact possible sur les migrants eux-mêmes, sur nos équipes. On a plusieurs milliers de personnes qui travaillent jour et nuit et qui souhaitent également être protégées. Le travail, bien sûr, des forces de l'ordre. Et puis, les clients, je rappelle que nous représentons presque, sur le transmanche, nous représentons 30% des échanges économiques entre la France et la Grande-Bretagne. C'est donc considérable, y compris d'ailleurs pour la Grande-Bretagne.
Aujourd'hui, la sécurité des personnels d'Eurotunnel n'est plus menacée ?
Pour la nuit, doubler les effectifs de façon à ce que les équipes soient suffisamment nombreuses pour être confortables. Le trafic est très intense la nuit sur le tunnel sous la Manche, et donc c'est cette machine, le système des navettes qui tourne toutes les 10 minutes que nous faisons fonctionner et qui aujourd'hui, grâce à ce soutien affirmé des forces de l'ordre qui nous permettent de travailler en toute sécurité, donne, je le répète, entière satisfaction.
Manuel Valls est attendu sur place le 31 août prochain. C'est une visite médiatique ou vous attendez d'autres annonces ?
Non, écoutez, moi j'estime que avec les décisions prises par Bernard Cazeneuve et son homologue britannique, le travail en commun que nous faisons, j'insiste bien sur cette remarquable coordination, nous avons eu les meilleurs experts du RAID pour nous aider, parce que c'est pas notre métier, à identifier les points qui devaient être confortés, qui devaient être solidifiés. Moi, personnellement, pour mon rôle de transporteur, lien vital entre la France et la Grande-Bretagne, j'ai les moyens de travailler et j'accueillerai le cas échéant bien volontiers le Premier ministre pour lui montrer quelle est l'importance de cette installation Eurotunnel qui est unique au monde et qui mérite d'être vue, mais les relations que j'ai maintenant directement avec Bernard Cazeneuve me permettent d'affirmer à nos clients qu'ils peuvent venir en toute sécurité chez Eurotunnel.
Bien, vous avez été entendu. Donc, merci beaucoup, Jacques Gounon, d'avoir été avec nous. Merci pour vos explications. Le PDG d'Eurotunnel. Vous restez avec nous. On marque une toute petite pause, quelques secondes seulement. Et puis après, tout autre sujet, puisqu'on parle de tourisme et de cette France qui pourrait bien battre un nouveau record mondial. C'est ce qu'annonçait cet après-midi Laurent Fabius. Qu'en est-il de l'Île-de-France? C'est ce que nous verrons dans un instant.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
La fréquentation touristique a progressé en Île-de-France, en tout cas au premier semestre. C'est ce qui ressort de chiffres publiés aujourd'hui. On en parle avec vous, Vincent Berthiaud, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication institutionnelle au comité régional du tourisme. Alors, quelques chiffres, justement. On parle de 15,9 millions d'arrivées hôtelières sur le premier semestre. Donc, encore une fois, on parle bien de l'Île-de-France, Paris et Grande Couronne, donc principalement boosté, on va dire ça comme ça, par le retour des touristes chinois. Comment expliquer ce retour des touristes chinois ?
Alors, c'est des chiffres qui sont satisfaisants et effectivement, il y a deux clientèles qui poussent la destination. Premièrement, les Français. Un retour des Français avec presque plus de 3% d'arrivée de Français. Et puis des Chinois, 49% d'arrivée de Chinois.
Ça paraît un peu surréaliste.
En fait, il faut savoir que l'année dernière, on s'était un peu stabilisé par rapport à l'année d'avant, où l'année d'avant, on avait fait aussi une progression de presque plus 50%. Les Chinois, tout simplement, c'est un marché énorme. Et aujourd'hui, il y a un pouvoir d'attraction de la destination Paris-Île-de-France qui est très important sur ce marché. On réalise un certain nombre d'actions. Et puis
il y a des choses qui les choquent. On se souvient du Premier ministre chinois qui avait parlé lui-même de l'insécurité dans Paris. On parle beaucoup de la salle parisienne, comme des choses qui les choquent. L'attractivité, oui, mais il y a autre chose derrière. On parle notamment d'un système d'attribution de visa facilité en 48 heures. Ça a boosté.
Alors, très clairement, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures qui ont été très positives. Et la mesure principale, c'est de permettre l'obtention de visa en 48 heures. Évidemment, ça a boosté. Là, on est donc sur plus de 49%. On espère arriver à plus de 900 000 arrivées de Chinois cette année à Paris-Île-de-France. Ça va devenir la troisième clientèle en Île-de-France. Donc c'est énorme. Et puis le Premier ministre également avait effectivement rencontré le Premier ministre chinois, avait dit qu'il souhaitait accueillir encore davantage de Chinois. Et d'ailleurs, Laurent Fabius espère en tout cas plusieurs millions de Chinois dans les années à venir.
On sait ce qu'ils font, ces Chinois, cette clientèle chinoise, on sait ce qu'elle fait à Paris, on sait combien elle dépense, on sait où elle dort.
Alors, on sait à peu près combien elle dépense. Le panier moyen d'un Chinois, c'est 1300 euros par
tout
personne.
Compris. Hébergement compris.
Tout compris, ce qui est très important, ce qui en fait l'une des clientèles les plus dépensières en Île-de-France. Et puis, on sait aussi ce qui les attire, et ce qui les attire principalement, c'est le shopping. À plus de 60%, les Chinois disent venir en Île-de-France pour faire du shopping.
Une polémique depuis quelques jours autour de l'ouverture de certaines zones marchandes le dimanche. Notamment, les syndicats nous disent faut arrêter de rêver, le touriste chinois ne vient pas aux Galeries Lafayette le dimanche soir pour acheter un parfum. C'est faux.
Je ne sais pas si c'est faux. Après, nous, on a toujours été favorable à l'ouverture des magasins le dimanche, parce qu'effectivement...
C'est une vraie demande des touristes.
C'est une vraie demande des touristes. On a beaucoup de touristes qui sont aussi des city breakers, en dehors des Chinois. Vous savez, on est une destination où on reste finalement peu de temps dans la destination. Et donc, si vous passez 3-4 jours à Paris-Île-de-France et que sur ces 3-4 jours, il y a une journée où vous êtes fermé, effectivement, il y a une perte de recettes qui est importante.
Bon, alors à l'inverse, là, on a regardé le verre à moitié plein, on va regarder le verre à moitié vide, si vous voulez bien. Il y a un gros gadin de la part de la clientèle russe, notamment. Je crois qu'on est un repli de près de 40%. Qu'est-ce qui s'explique ? C'est uniquement géopolitique ?
Je pense que déjà, d'une part, il y a la situation économique en Russie qui est compliquée. Il y a une dépréciation de la monnaie russe aussi par rapport à l'euro. Et effectivement, aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est pas forcément ce qui les attire le plus, mais d'une manière générale, on se rend compte que les clientèles russes sont un petit peu moins présentes dans les grandes destinations européennes.
Les Japonais également.
Alors les Japonais également. Un peu les mêmes raisons, une situation économique difficile, une dépréciation de la monnaie, et puis tout simplement, vous savez, le tourisme, c'est très très lié à la situation économique ou à la situation politique des pays, et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les Japonais sont en net repli.
Vous parliez de la dévaluation de la monnaie japonaise, la dévaluation du yuan également, on y a assisté durant l'été. Est-ce que d'ores et déjà, on peut prévoir des conséquences de cette situation monétaire?
Alors, honnêtement, et c'est un petit peu tôt pour le dire, aujourd'hui, il y aura sans doute quelques ajustements d'ici la fin de l'année, mais aujourd'hui on n'a aucun manque de réservation de la part des Chinois. Au contraire, on pense qu'on va faire vraiment une année exceptionnelle sur l'arrivée des Chinois.
On verra ça du coup sur l'année prochaine, l'année 2016 a priori.
Tout à fait, on pourra donner dès début 2016 les chiffres de la fréquentation sur le deuxième semestre.
Alors on le disait, il y a eu des efforts qui ont été faits, il en reste encore beaucoup à faire. Je vous parlais de la saleté tout à l'heure, je vous parlais de l'insécurité, on peut parler des capacités hôtelières, on peut parler de l'ouverture des magasins le dimanche. Il y a encore du pain sur la planche pour améliorer l'image de Paris.
Il y a toujours du travail. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une destination, contrairement à ce que beaucoup pensent d'ailleurs, une destination de grande qualité. On a un taux de satisfaction qui est à plus de 93% de toutes les clientèles.
Alors c'est du French bashing quand on entend dire oui, on est désagréable. Tout à l'heure, on diffusait même un papier disant qu'on était parmi les touristes les plus radins. C'est du French bashing. Il y a une réalité derrière tout cela.
En tout cas, je ne sais pas si à l'étranger, on est les touristes les plus radins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les clientèles internationales, et y compris la clientèle française, considèrent qu'on est une destination de grande qualité et sont relativement satisfaits des prestations. Après, il y a deux sujets sur lesquels on peut encore s'améliorer, qui sont notamment la question de la sécurité, et puis également la question de la propreté dans Paris intramuros, qui peut poser parfois, ou y compris dans les transports, qui peut poser un certain nombre de difficultés. Mais sur la sécurité, on parlait aussi des Chinois, il faut savoir aussi que la préfecture de police de Paris-Île-de-France a fait beaucoup d'efforts, a mis en place un certain nombre de brigades spécialisées sur des zones touristiques.
Enfin, il a fallu quand même des grèves du personnel de la Tour Eiffel, du grève du personnel du Louvre, et j'en passe.
Oui, non mais après on peut toujours s'améliorer. Moi, je suis pas le porte-parole de la préfecture de police, mais il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement. Il y a des efforts aussi qui sont faits par tous les organismes et tous les opérateurs de tourisme. Nous, on a une grande stratégie sur la qualité de l'accueil. Mm-hmm. On a des points d'accueil dans les aéroports, aux Galeries Lafayette maintenant, à Disney, à Versailles. On accueille plus de 2,5 millions de visiteurs français et internationaux. C'est cette qualité de l'accueil qui sera un facteur de différenciation par rapport aux autres destinations.
On a longtemps entendu dire également qu'il manquait des hôtels, des chambres disponibles, ce qu'on appelle la capacité hôtelière. Tout cela, alors, c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps des palaces qui ont été fermés pour rénovation. Tout cela aujourd'hui est derrière nous.
Non, tout cela aujourd'hui n'est pas encore derrière nous. On est en rattrapage. On avait un besoin à peu près de 20 000 chambres à l'horizon 2020-2025. Aujourd'hui, on a une offre nouvelle qui est en train de se développer et qui se développe principalement en dehors de Paris intramuros. Mm-hmm. Et ça, c'est la chance de la destination, c'est d'avoir encore des zones de respiration, puisque, on le sait, le cœur de la destination commence à être un peu saturé. On a des espaces pour développer et on le sait que dans les années qui viennent, il y a encore de nouvelles capacités d'hébergement qui vont se développer.
C'est ce qui fait qu'il y a une moindre pression sur les prix, notamment donc dans cette grande couronne, parce que les prix ont chuté en moyenne de 2%, hormis dans Paris Intramuros, où là, ils ont augmenté de 3 à 4%.
Oui, alors de toute façon, globalement, les prix sont un petit peu moins chers à Paris intramuros. On va dire que le prix moyen d'une chambre milieu de gamme, c'est un peu moins de 100 euros en dehors de Paris et un peu plus de 130 euros dans Paris. Donc oui, il y a une offre nouvelle dans Paris-Île-de-France, dans l'Île-de-France. Il y a un petit phénomène d'ajustement qui s'est passé dans Paris intramuros, puisque les hôteliers ont une petite baisse de leur taux d'occupation qu'ils ont répercuté sur les prix. Mm-hmm. Ils ont légèrement augmenté les prix.
Baisse due notamment à une concurrence comme celle d'Airbnb.
Effectivement. Alors il y a plusieurs facteurs qui jouent. Premièrement, il y a une légère contraction de la durée de séjour. qu'on a observé depuis le début de l'année. Deuxièmement, il y a évidemment l'hébergement alternatif. Mm-hmm. Et on se rend compte que le phénomène Airbnb, mais il n'y a pas que Airbnb, il y a d'autres concurrents. Une nouvelle mode pour les clientèles.
Il y a quelques mois, la Fox News faisait beaucoup de bruit avec ses fameuses no-go zones, on se souvient, du scandale. Est-ce qu'il y a, mine de rien, une répercussion? Est-ce qu'on peut noter les conséquences de ces fausses no-go zones de Fox News?
Non, très honnêtement, je crois pas qu'il y a eu une véritable répercussion. Les touristes se rendent bien compte que les no-go zones, ça n'existe pas. Il y a eu un certain nombre de réponses, d'ailleurs, de politiques de premier plan par rapport à ces médias.
Elles ont tardé quand même, ces réponses. Hein.
Elles ont sans doute tardé. Maintenant, non, il n'y a pas eu d'effet Fox News à Paris-Île-de-France.
Merci beaucoup, Vincent Berthiaud, pour vos explications. Vincent Berthiaud, donc, le responsable de la communication institutionnelle du comité régional du tourisme La France, qui devrait donc, selon Laurent Fabius, cet après-midi, battre un nouveau record mondial. On sera à plus de 85 millions de touristes. Merci encore.
Merci.
Vous restez avec nous à suivre dans quelques instants Emmanuel Le Chypre avec sa librairie de l'écho, évidemment. Et puis, quant à moi, bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h30 pour l'invité de BFM Business. Et puis, même endroit, même pour le Grand Journal à partir de 18h. Passez une excellente soirée et à demain sur BFM Business.